fait, c'est assez simple. Si je pose une question, c'est que j'ai pas la réponse. Et parmi toutes celles que j'ai pu poser, il y en a une qui revient tout le temps, j'ai remarqué, elle tient en quatre mots. Qui écrit l'histoire? J'ai remarqué qu'à chaque fois, mon invité répond par la négative. Certainement pas les historiens, m'a rétorqué une historienne un matin. Ni les femmes, ni les enfants, m'a répondu une romancière. Qui écrit l'histoire? Pas moi, en tout cas. Pas ceux qui la subissent. Vous savez, au fil des années, j'ai l'intuition que l'histoire se définit d'abord par ses manques, par ses failles, ses lignes de fuite, par tout ce qu'elle exclut ou qui échappe à son récit. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles chacun des portraits qu'on propose ici s'efforce toujours de raconter à un moment une histoire personnelle, et donc une autre histoire collective, avec ses manques, ses failles, ses lignes de fuite. Parce qu'une histoire, quelle qu'elle soit, ça s'interroge toujours. Ce qu'on choisit de raconter, ce qu'on porte en creux comme discours, les perceptions que chacun ou chacune peut avoir. Parce qu'une histoire, quelle qu'elle soit, passe toujours certaines choses sous silence et qu'il s'agit pour nous de la compléter. Et puis enfin, parce qu'une histoire, quelle qu'elle soit, ne peut exister que s'il y a des gens pour l'écouter, quels que soient ses manques, ses failles, ses lignes de fuite.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui nous raconte d'autres histoires. Cinéaste, acclamé pour Bamako, récompensé pour Timbuktu qui lui valait le César, vous vous souvenez, du meilleur réalisateur il y a 7 ans. Il fait pour la première fois une incursion dans le monde du théâtre. Son opéra, Le vol du Boli, créé avec le génial Damon Albarn du groupe Blur et de Gorillaz, retrace 8 siècles d'histoire du continent africain. Après des débuts difficiles liés à la pandémie, il se jouera dès vendredi jusqu'au 8 mai au Théâtre du Châtelet. Bonjour Abderrahmane Cissako.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Avant toute chose, pour vous, qui raconte l'histoire au fond? Qui la prend en charge et peut-être au détriment de qui?
Alors, c'est difficile hein, comme question. Pour pouvoir le répondre, il faut être un intellectuel peut-être, hein, qui a la parole, la manière de faire. Je ne saurais pas vraiment répondre à cette question, mais je dirais que, comme le prologue dans Le vol du Boli, qu'on a volé notre histoire.
Si on prend l'histoire du continent africain, justement, qu'est-ce qui est raconté, ou plutôt qu'est-ce qui n'est pas raconté, qu'est-ce qui est tu?
Très peu de choses sont racontées véritablement, hein, et peut-être c'est facile de dire que c'est les gagnants qui racontent les histoires, mais c'est vrai. Hein, et l'Afrique, comme dit Aimé Césaire, son grand drame a moins été son contact tardif avec le reste du monde, mais que la manière dont ce contact a été établi, et que c'est au moment où l'Europe est tombée entre les mains des financiers dénués de tout scrupule, que l'Europe s'est propagée, et que la malchance de l'Afrique, c'est cette Europe-là que nous avons rencontré. Et c'est terrible. Et ces capitaines d'industrie, ces financiers, ça perdure encore en Afrique. Hein. Et donc, l'histoire est triste dans le sens, pour moi, en tout cas africaine, que et l'Afrique a été dépossédée de quelque chose de fondamental. Et pas totalement, parce qu'il ne faut pas être pessimiste là-dessus, hein, qui est quand même des valeurs spirituelles. Et le vol du Boli, c'est un peu ça. Quand on prend l'âme d'un peuple, quand on prend des valeurs, quand on prend tout ce qui a du sens, en fait.
Il faut expliquer, en l'occurrence, l'histoire vraie dont vous nous parlez, c'est celle d'un vol, celui dans les années 30 d'un objet sacré malien par l'ethnologue et écrivain Michel Léris, le Boli. Cet objet, peut-être qu'il faut nous le décrire pour qu'on comprenne.
Alors, le Boli, c'est un fétiche bamana, donc du Mali, qui a été volé. C'est Léris qui raconte cette histoire, c'est qui est aussi sa force, la force de Léris, qui joue ici pour moi, pour l'Afrique, un rôle extrêmement important parce que le voyage de Léris avec Marcel Gruyol qui s'est passé de 1931 à 1932 et le Dakar Djibouti où c'était la collecte. Donc, le Boli, c'est ce fétiche bambara qui a été subtilisé. Et c'est très très compliqué aujourd'hui de l'évoquer véritablement.
De quoi est-il le symbole?
Alors il est le symbole de la force d'un peuple, des croyances en fait. Et le Boli est protecteur.
Ça veut dire que c'est bien plus qu'un objet en fait qu'on dérobe. C'est l'identité d'un peuple, c'est l'âme d'un peuple, Abderrahmane Cissako.
Exactement, exactement. C'est l'âme d'un peuple, c'est son identité, c'est sa négation, parce que c'est ça. Quand on vient et qu'on prend tout ce que... quand on prend l'esprit, l'âme d'un peuple, c'est sa négation. Et c'est ce qui s'est passé véritablement.
Alors restituer aux anciens peuples colonisés les œuvres d'art qui leur ont été volées, quel enjeu est-ce que c'est aujourd'hui?
Non, je pense... que c'est extrêmement important. La décision qui a été prise par le président Macron, pour moi, c'est une des plus grandes et fortes décisions.
C'est vrai.
Absolument. Ah, je suis tout à fait d'accord avec ça, même si je considère que dans la manière dont ça a été fait, en l'occurrence, disons, quand on restitue 26 objets au Bénin, que ce sont des objets que le Bénin n'a pas choisis. Parce qu'il en a des milliers. Donc, on vous dit, ben, on vous rend ceci, mais pas celui-là. Donc, on vous vole des choses. Après, et on vous rend pas tout. Et là, ça, c'est triste parce que quand on prend le Quai Branly aujourd'hui pour moi, qui est presque un reseller, hein.
Où se trouve le Boli, d'ailleurs?
Où se trouve le Boli et qui est, c'est dans le déni total. Et c'est dommage, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas cette ouverture sur ce qu'on peut raconter aujourd'hui sur un vol. Et il ne s'agit pas d'être africain pour revendiquer un vol, hein. Moi, je pense que c'est vraiment quand on a pris l'identité d'un peuple, quel qu'il soit, c'est des valeurs universelles qu'on a touchées.
Abderrahmane Cissako, dans quelle mesure la violence qui, pendant des siècles, a structuré les relations entre notre continent et le vôtre est-elle encore tangible pour vous aujourd'hui? Parce que c'est ça dont vous nous parlez en fait.
Oui, parce que vous savez, c'est terrible. Quelqu'un qui... La pauvreté avilit parce que... Et bien sûr, c'est pas facile d'en parler aujourd'hui parce que ça expliquerait que toute la faute vient de l'autre. Je ne dis pas ça, hein. Mais quand même, déposséder, coloniser, aviliser... Et est un sentiment terrible. Et aujourd'hui encore, hein, quand on prend le continent africain, qui est un continent d'une très très grande diversité, d'une force extraordinaire, et quand on peut prendre un seul pays à 300 langues, vous imaginez ce que c'est. Mais quand l'oralité n'est pas considérée comme une valeur et qu'il faut surtout soit parler français ou anglais ou espagnol, et que c'est ça, on a réduit quand même l'humanité à des choses... précises, à des valeurs précises. Et ça, c'est sa dépossession, en fait. C'est-à-dire que, et on ne tient pas compte de, voilà, je parle des 300 langues de l'Éthiopie ou des 70 langues au Mali.
Je pense aussi, évidemment, aux morts quotidiennes de milliers d'hommes et de femmes en Méditerranée que vous évoquez dans votre spectacle. La semaine dernière, le Conseil de l'Europe dénonçait de graves violations des droits humains dans les méthodes de contrôle aux frontières des États membres de l'Union européenne. Abderrahmane Cissako, de quoi nos frontières sont-elles le nom aujourd'hui?
On érige, on continue d'ériger des barrières. Hein. La Méditerranée, c'est ça, et c'est triste que vous l'évoquiez. Hein. Peut-être hier, probablement, une pirogue a chaviré. Vous savez, un jeune ne rentre pas dans une pirogue facilement pour partir. Et avec la probabilité de mourir, hein, c'est à 50%. Hein. C'est cette forme de suicide... est terrible, et que de l'autre côté, cette Europe forte, belle aussi, hein. L'Europe n'est pas que l'horreur pour nous, hein. Elle a aussi une réelle force dans son identité, dans ses valeurs que nous apprécions en tant qu'Africains. Mais cette Europe forte, politiquement et militairement, érige des barrières pour rejeter l'autre.
C'est quoi? C'est la peur de l'autre? C'est la peur de la rencontre?
Oui, on a, c'est la peur de l'autre. On a fait en sorte que, qu'il y a une Afrique qui se déplace malheureuse pour venir en Europe pour des raisons économiques. Non, l'Afrique n'est pas ça. L'Afrique qui bouge, elle bouge entre elles. L'Afrique reste, elle travaille sur place. Les gens chantent, dansent, écrivent, réfléchissent, se développent, éduquent des familles. Quelques-uns partent. Mais l'identité africaine n'est pas sa pauvreté. C'est sa force réelle qui est là. Et c'est comme si, quelque part, on a intérêt à, soit parfois à le victimiser trop, ou à le minimiser, et à en avoir peur, en fait. Mais tout peuple, toute identité n'est que rencontre et mélange, hein.
Et dans quelle mesure l'art, justement, l'art, c'est un lieu qui offre encore la possibilité de ces mélanges, de ces rencontres, de ces multiples identités, Abderrahmane Cissako?
Oui, prenons le vol du Boli. Le vol du Boli a été possible parce que c'est une invitation de Damon Albarn, qui est pourtant anglais, voilà, qui m'invite à faire un opéra. L'art, c'est l'universel. C'est des hommes et des femmes d'univers différents, de sensibilités différentes, qui sont capables... l'art ne crie pas, hein, qui sont capables de chantonner quelque chose, de murmurer des vérités, de partager. Voilà. Et donc l'art est fondamental et très important pour ça.
Celle qui est universelle dans cette émission, vous la connaissez, Abderrahmane, c'est évidemment la culture et son actualité fusion. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 13 avril ?
On n'a pas bien répété, on n'a pas mot musicien, mais on va improviser une petite chanson.
Crooner de pointe, les Dutronc, père et fils, ont amorcé hier leur grande tournée à deux, lunettes noires, voix de velours, morceaux cultes. À 78 et 48 ans, Jacques et Thomas Dutronc réinterprètent les classiques du répertoire familial, enchaînant J'aime les filles avec J'aime plus Paris ou les Playboy. Entouré d'un groupe de 5 musiciens corses, le duo s'élance pour une trentaine de dates, dont plusieurs gros festivals, comme le Printemps de Bourges la semaine prochaine et un Bercy en décembre. Le dessinateur et caricaturiste Calvi est mort lundi, il avait 83 ans, célèbre pour ses croquis d'audience, notamment ceux des procès de Klaus Barbie et de Maurice Papon. Philippe Valencien, de son vrai nom, avait commencé à collaborer aux pages de France Soir dès les années 70, enchaînant ensuite au Monde, au Journal du Dimanche et au Figaro. Esprit acerbe et très vif, Calvi était aussi l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages illustrés, dont ceux de la série Astrobal, petit extraterrestre, précipité dans la France déroutante des 70s.
Puisque vous espériez trouver le bonheur dans les...
Mythique brasserie parisienne du boulevard Montparnasse, la Closerie des Lilas, a décerné hier son prix littéraire 2022 à la romancière corse Elena Piacentini. Le jury entièrement féminin, présidé par Laure Adler, s'est laissé séduire par Les Silences d'Ogliano, le dernier roman de l'autrice, paru en janvier chez Actes Sud, inspiré d'Antigone, une histoire d'omerta, de clan et d'émancipation sur une île méditerranéenne de papier.
On est à la maison, maman.
Non.
T'as peur ?
Alors, je suis née.
Et enfin, mercredi d'entre-deux-tours, cinéma, amour. Car aujourd'hui, dans les salles, on se laisse happer par le vortex de Gaspard Noé, le très formaliste cinéaste à qui l'on doit Irréversible. Enter the Void ou Climax prend tout le monde de court en proposant un mélodrame sur l'amour en fin de vie, un film pudique, sensible, absolument bouleversant, porté par Françoise Lebrun, Alex Lutz et Dario Argento sur un couple de seniors fragilisés par la maladie d'Alzheimer. Cinéaste Abderrahmane Sissako, invité de Boomerang ce matin pour le vol du Boli, on en parlait. Cet opéra, né de votre collaboration avec le musicien britannique Damon Albarn, qu'on a reçu plusieurs fois dans cette émission, figurez-vous. Et c'est intéressant parce que d'emblée, vous avez dit que si vous étiez amené à écrire un opéra, celui-ci serait forcément politique. Alors c'est une phrase qui m'a passionné. Est-ce que c'était pas déjà le cas de votre cinéma, Abderrahmane ?
Oui, parce que vous savez, l'Afrique... On parle beaucoup d'elle, elle se raconte très peu. Et quand on est cinéaste, quand on est artiste, qu'on a la possibilité de raconter ce continent, on ne peut être que politique.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi créer une œuvre politique ?
Ben, c'est dire, c'est ne pas taire et ne pas se taire. Pour moi, l'œuvre politique, c'est ça. Ne pas taire les choses, ne pas se taire et partager. Et surtout, être dans un acte plutôt universel. Parce que parfois, on est même gêné par cette identité uniquement africaine. Moi, je ne pense pas qu'on soit français, voilà, ou qu'on soit ceci ou cela, mauritanien. Bon, bien sûr, c'est des raccourcis. On est tout simplement un être humain qui est un contemporain de son époque. Et quand on doit prendre la parole, elle doit être politique. Parce que le monde est vraiment profondément injuste. L'injustice prend trop de place. Et voilà, donc il faut être révolté, il faut dire les choses. Mon cinéma, et bien sûr, cette forme de révolte, elle n'est pas un cri, comme je le disais. Hein. Elle est là et... avec tout ce que l'art peut donner, nous donner pour s'exprimer, en fait.
Vous savez, ce qui m'a fasciné, c'est que cette dimension politique dans Le Vol du Boli, elle s'exprime, en fait, j'ai l'impression, à travers la très grande place que vous faites à la danse, et donc à la mise en lumière des corps. En quoi l'histoire que vous nous racontez, c'est peut-être avant tout, Abderrahmane Sissako, une histoire de corps mouvant.
Oui, d'abord un propos. D'abord un propos avant de devenir une histoire de corps. Et d'ailleurs, c'est extrêmement important parce que, et vous l'avez dit, hein, c'est un travail énorme de beaucoup de gens. Il y a Damon Albarn, mais j'ai beaucoup travaillé avec Charles Castella qui a écrit le livret avec moi. Et donc, ça a été une recherche pendant au moins une année d'écriture. Et le corps s'est imposé tout de suite pour moi, le corps. Parce que le corps permet de... pas seulement de ne pas crier, en fait.
D'où vient cette fascination pour la danse, chez vous ?
Quand j'étais petit, c'est incroyable, hein, et je me permets de le dire ici, et quand j'ai fait mon film de fin d'études, qui s'appelle « Le jeu » à Moscou, et après avoir échoué à réaliser deux courts-métrages parce que l'école exigeait ça, et mon film de diplôme s'appelle « Le jeu ». Le jour de la défense de mon diplôme, mon directeur de mémoire a dit une phrase qui m'a extrêmement étonné. Il a dit au jury... Ce garçon aurait pu être chorégraphe. Et moi, j'ai toujours rêvé d'être chorégraphe. J'ai toujours. Mais quand on est jeune en Afrique, ce sont des métiers pas évidents. Voilà, on peut pas le dire. Donc j'ai caché en moi ce désir très très fort d'exprimer les choses par le corps, par la danse, parce que j'allais et j'étais même un peu interdit, parce que quand les femmes font des fêtes, il y a 100 femmes, il peut y avoir 3 ou 4 garçons, donc je faisais partie de ces petits garçons qui pouvaient regarder ces danses et on venait presque me prendre par le col pour dire non, c'est pas ta place. Donc la chorégraphie, la danse, les corps que vous citez, c'est incroyable, c'est fort. Et aujourd'hui, le vol du boli et la chorégraphie a une place extraordinaire.
J'ai l'impression, à vous entendre, que la danse, pour vous, c'est le dernier art dont dispose celui qui est privé de sa liberté pour résister.
Oui, parce que la danse, je pense même que le mot danse est réducteur de ce que c'est, la danse. Et c'est réducteur, pas dans le sens négatif, hein, mais parce que... Et c'est juste parce que c'est le premier souffle, hein, vous savez, quand on vient au monde, hein, et quand un enfant naît, hein, c'est quand même des mouvements, hein. C'est une expression incroyable. Un bébé qui a ses petits doigts, qui les bouge, ou ses lèvres qui s'ouvrent un peu, des yeux qui sont encore fermés, tout ça qui bouge. C'est la plus belle chorégraphie, c'est ça, c'est la naissance.
Et puis viennent les cris. Viennent les sons, viennent les chansons, Abderrahmane Sissako.
Exactement.
Je pense tout de suite à une voix, celle de Fatoumata Diawara, qui est l'une de celles qui portent votre opéra, Le vol du boli, que vous aviez déjà choisi dans Timbuktu. Que faut-il, au fond, pour qu'une voix vous touche, vous ?
Bon, Fatoumata en particulier, c'est une très très grande artiste, c'est une très belle personne, c'est une très très forte aussi, très engagée aussi politiquement en tant qu'être humain. Et donc pour moi, c'est évident, hein, j'avais besoin d'elle. Et c'est tout comme dans Timbuktu, j'avais besoin de Fatoumata sans savoir ce qu'elle allait jouer dans Timbuktu. Nous avons pris un café, c'était à Bastille, j'ai dit Fatoumata, j'ai besoin de toi, je veux faire un film. Elle dit, ah, mais moi je te dis tout de suite, tu le feras pas sans moi. Donc ce sont des gens qui ont cette capacité, cette confiance, parce qu'un artiste, il a besoin qu'on lui fasse confiance.
Qu'est-ce qu'elle vous raconte, sa voix, au fond ? Une autorité, à vous entendre ?
Oui, une autorité, mais c'est une douceur forte. Très très forte, c'est une douceur, c'est un cri tellement mélodieux, c'est beau.
Alors on l'écoute, cette voix de Fatoumata Diawara, sur une musique de Damon Albarn, que l'on retrouve dans votre spectacle Le vol du boli, ça s'appelle Freedom Release. Vous êtes sur France Inter avec Abderrahmane Sissako, vous écoutez Boomerang, évidemment.
Hey. la Pologne. Comment t'aimer dans mes villages, il y va la Pologne. Par la vie d'où il y a où la haie.
Vous savez, ce qui frappe, c'est son extrême sérénité. Quelque part entre le guide spirituel et le bonze tibétain, une bienveillance dans le regard derrière ses lunettes cerclées de noir, une sagesse dans le poivre et sel de ses cheveux coupés courts, quelque chose de presque enfantin dans le sérieux de son sourire avec son petit pull noir et son t-shirt blanc qui dépasse. Le cinéaste et metteur en scène Abderrahman Sissako, invité de Boomerang ce matin pour cet opéra Le vol du Boli, dès vendredi au Théâtre du Châtelet. C'est un spectacle qui réunit des artistes africains et européens, professionnels et non professionnels, comme souvent chez vous. D'ailleurs, au fond, qu'est-ce que vous allez chercher chez celles et ceux dont le métier n'est pas de jouer, Abderrahman Sissako?
Je vais chercher la force que je n'ai pas. Je vais chercher souvent la fragilité aussi que j'ai et que j'aimerais partager avec l'autre. Hein. Moi, je choisir quelqu'un, c'est une quête. C'est une quête de soi, c'est de ressembler à l'autre. Et j'ai le sentiment que je ressemble à tous les artistes qui travaillent avec moi.
Se peut-il que vous alliez chercher aussi une vérité, la vérité d'une histoire, d'un vécu, d'un parcours?
C'est un peu trop fort de dire ça, que je vais chercher la vérité, parce que la vérité est une quête aussi en toi. Hein. En tout cas, je vais et j'emprunte un chemin pour partager véritablement ce que j'aime le plus. C'est la confiance que j'ai en l'autre. Voilà. Moi, je suis profondément convaincu que nous vivons dans un monde, certes injuste, mais un monde de gens extraordinaires et formidables. Je crois qu'on ne les voit pas, qui sont des anonymes. Et voilà. Le spectacle est fait par beaucoup de gens qui sont anonymes. Donc, moi, je suis devant. Mais derrière, et on parle de moi, mais il y a tellement cette force, cette beauté.
Parce qu'il s'agit aussi, dans votre projet, de mettre en lumière des hommes et des femmes de l'ombre, celles et ceux qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas.
Exactement, exactement. En tout cas, je le vis quotidiennement, moi, ça. Et ces femmes de l'ombre, ces hommes de l'ombre, ces musiciens, ces... Je cite comme ça Mélissa et Ophélia, qui sont de Strasbourg, mais du Burkina Faso, qui jouent au balafon ou au djembé. Je cite Fatoumata Diawara, mais surtout Fatou Diara, qui est une danseuse. Il y a beaucoup de gens comme ça. Kouben, qui est un joueur aussi, un musicien. Jack Steedman, qui est un compositeur anglais extraordinaire, François Sauveur, enfin, je peux pas, il y a tellement de gens qui sont incroyables.
Mais comment fait-on travailler quelqu'un qui n'est jamais monté sur scène, Abderrahman Sissako, quelqu'un qui, avant que vous nous sollicitiez, pouvait pas imaginer qu'un jour il ferait partie d'une production artistique?
Alors, je pense que c'est faire confiance à l'autre. Quand on fait confiance à quelqu'un, moi c'est mon cas. Hein, j'ai jamais fait d'opéra et si j'ai pu le faire, c'est parce qu'on m'a fait confiance. Et j'ai pas eu peur en fait. Et la peur est un sentiment terrible. Je pense que lorsqu'on invite quelqu'un et qu'on enlève à lui enlever la peur parce qu'on lui fait confiance, tout est possible.
Quand est-ce que vous avez compris, vous, que votre vie serait dédiée à la création artistique?
Très jeune, j'avais peut-être 8, 9, 10 ans, j'ai rêvé, c'est une histoire personnelle très intime. Ma mère a eu un fils qui n'a jamais grandi avec elle, qui était parti en Algérie avec son père. Et moi et mes frères et sœurs ont grandi dans l'évocation permanente de ce fils qu'elle n'a jamais vu, qu'elle n'a jamais eu. Et quand elle a rencontré son fils, il avait 25 ans, il faisait des études de cinéma. Et j'ai voulu être ce fils que ma mère n'a jamais eu. Et j'ai choisi le cinéma, pas parce que j'aimais le cinéma. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai voulu vraiment raconter tout ce, le monde qui m'entoure.
À quel moment intervient la poésie, Abderrahmane Cissako ?
La poésie, c'est nous. Hein. La poésie, c'est nos premiers pas. C'est lorsqu'on est capable de tomber, de trébucher, de se relever. La poésie, c'est le pleur d'un enfant au loin, mais qui va être pris dans les mains de sa maman. La poésie, c'est un appel au loin de quelqu'un. La poésie, c'est le vent qui souffle. La poésie, c'est nous, en fait. Et je crois que tout le monde est poète.
Avec quelles paroles poétiques est-ce que vous avez grandi, pour autant ?
Alors, j'ai été nourri par Aimé Césaire. Vraiment, l'anthologie négro-africaine, que ce soit Aimé Césaire, Frantz Fanon, William Du Bois, et René Maran, Bernard Dadier, et voilà, tous ces gens-là extraordinaires qui sont révoltés contre la colonisation, contre l'esclavage. Mon Bercy, j'avais dans ma maison peut-être 4 livres, pas plus. On n'a pas grandi avec les livres, nous. On a grandi dans l'écoute, dans l'éducation, dans l'oralité aussi. Mais ces livres que mon père avait étaient des livres engagés, poèmes engagés.
C'est fou parce que tout à l'heure, au début de cet entretien, vous avez cité Aimé Césaire, vous l'avez cité de mémoire, et c'était l'exacte citation.
Oui. Parce qu'il m'a nourri. Hein. Son œuvre m'a nourri, sa personne aussi, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer à Fort-de-France. C'était bouleversant pour moi, la rencontre avec Aimé Césaire. Encore ce géant dont on n'a pas su compris la vraie place en France, je dirais.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit ?
Ben, je me suis dit que c'est dommage que Aimé Césaire n'est pas enseigné comme il devait l'être, parce que c'est la force, l'universel, parce qu'il n'y a rien de plus important que l'universel.
Et c'est quelque chose, ça, que peut porter justement la poésie quand on la dit, Abderrahmane Cissako, quand on l'apprend par cœur, quand on la transmet, quand on la passe.
Oui. Moi, j'aime beaucoup, je ne suis pas quelqu'un qui écrit, mais j'aime beaucoup écouter ceux qui écrivent, j'aime beaucoup la poésie, j'aime beaucoup le chant.
Cette rencontre avec Aimé Césaire, dans quelle mesure elle vous a déterminé également, vous, en tant qu'artiste, en tant que cinéaste ?
Elle m'a déterminé parce que tout ce que je fais, qui a une portée politique, que je m'appuie vraiment sur les autres. Ils sont des béquilles pour moi. Aimé Césaire est une béquille, Frantz Fanon est une béquille. Je dirais qui je peux citer. Rimbaud est une béquille. Voilà, donc les autres sont des béquilles pour moi, parce que quand on n'est pas connu, quand on a besoin des autres vraiment pour s'appuyer et crier.
Vous avez dit son nom, Frantz Fanon, et vous allez nous dire ce matin, Abderrahmane Cissako, pour conclure en beauté cette émission un peu comme on l'a commencé, un extrait de Peau noire, masque blanc.
L'explosion n'aura pas lieu aujourd'hui. Il est trop tôt. Ou trop tard. Je n'arrive point armé de vérité décisive. Ma conscience n'est pas traversée de fulgurances essentielles. Cependant, en toute sérénité, je pense qu'il serait bon que certaines choses soient dites. Ces choses, je vais les dire, non les crier, car depuis longtemps, le cri est sorti de ma vie. Et c'est tellement loin. Pourquoi écrire cet ouvrage ? Personne ne m'en a prié. Surtout pas ceux à qui il s'adresse. Alors calmement, je réponds qu'il y a trop d'imbéciles sur cette terre. Et puisque je le dis, il s'agit de le prouver. Vers un nouvel humanisme, la compréhension des hommes, nos frères de couleur, je crois en toi, homme, le préjugé de race, comprendre et aimer.
Merci. Abderrahmane Cissako, merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Merci. Je rappelle que Le vol du Boli, votre opéra composé par Damon Albarn, avec Fatoumata Diawara, Tierno Tune, Fatou Diarra, Baba Cissoko, Jupiter Bokunji, entre autres, sera présenté dès vendredi et jusqu'au 8 mai au Théâtre du Châtelet. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers, juste après ça. Sébastien Tellier, porté par le vent, il est 9h40 sur France Inter, Sonia De Villers, l'instant M. Sonia.
Porté par le vent, évidemment.
Porté par le vent et par la musique.
Allez, salut Augustin, à demain.